Impressionnant d'en haut. Hein. Mais c'est une grâce de pouvoir passer ces temps devant le Seigneur. Je vais vous inviter à lire, à ouvrir vos Bibles avant de la lire, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Et on lira à partir du verset 25. Matthieu 11. 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. J'aimerais lire le verset 28, 29 et 30 dans deux autres transcriptions. Une qui est la parole vivante et qui rend ceci : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Et la version Darby qui retranscrit ceci, mais il y a un verbe qui est important : Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez. Qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. En fait, ce verset 28, je l'ai lu, je pense, une bonne centaine, voire une bonne millier de fois. Et c'est vrai que c'est toujours « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vais vous donner du repos. » Et il y a ce « Apprenez de moi » qui arrive derrière. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mais la véritable chose, c'est apprenez de moi, mettez-vous à mon école. Et en fait, ça a attiré particulièrement mon attention parce que le Seigneur nous demande quelque chose, c'est d'apprendre. Apprendre toujours, apprendre chaque jour de notre vie. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est celui qui a cessé d'apprendre, a cessé de vivre. Et le Seigneur nous invite ici à apprendre de lui parce qu'il est doux et humble de cœur. C'est ce dont on va s'entretenir quelque temps ce soir, la douceur, l'humilité de Christ et nous, notre apprentissage qu'on a à faire de ces choses pour mettre en pratique cela dans notre vie au quotidien. Alors, ça concerne chacun d'entre nous et ça va tout de suite toucher notre volonté, tout de suite trouver le chemin de notre cœur. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur qui apprend ? C'est un cœur selon le cœur de Dieu. Et ça, on le trouve avec David dans 1 Samuel 13, 14. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Ou dans Actes 13, 22, quand il est dit que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ça, c'est un cœur selon le cœur de Dieu. Un cœur qui est enseignable. Un cœur qui est malléable. Un cœur qui se laisse transformer, qui se laisse éduquer, qui se laisse élever. Il y a aussi dans le psaume 89 et au verset 20, « J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme », pour parler de David. Mais ce « élevé », il veut dire bien sûr j'ai oint, j'ai choisi, mais aussi j'ai éduqué, j'ai fait grandir et je vais faire grandir. Et c'est ce qui est important. Avoir un cœur selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui se laisse travailler. Dieu nous appelle ici, dans ce passage, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Mettez-vous à mon école. » Parce que moi, je vais vous montrer le chemin à suivre, parce que moi je suis doux et humble de cœur. Dieu nous appelle à le suivre avec un cœur comme cela. Si nous sommes fatigués, fatigués de porter des choses que nous n'avons pas portées, fatigués de tout ce que la vie peut nous infliger, fatigués de la charge du travail que nous faisons, si nous sommes chargés de lourds fardeaux, eh bien, venons à Jésus, parce qu'il nous appelle encore une fois, pour apprendre de lui, venir à son école, se laisser transformer, équiper, se laisser perfectionner, se laisser peut-être raccommoder pour que, on soit rendu complet et parfait pour son service et pour son œuvre. C'est le but que Dieu poursuit. Dans toutes les Écritures, dans tout ce qu'il nous dit, dans tout ce qu'il veut nous transmettre par l'action de son Saint-Esprit aussi, Dieu a un but pour nous et pour l'Église. C'est de nous amener tous dans un état qui est celui d'un état d'homme fait, pour accomplir chacun et parfaitement pour notre part notre fonction et l'œuvre qu'il nous a confiée. Ça, c'est la mission que Dieu a. Et il veut nous rendre capables d'utiliser ces choses. Et 2 Timothée 3, 16 et 17, il dira « Car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toutes bonnes œuvres. » Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi il nous a laissé la Bible. Voilà pourquoi il nous enseigne chaque jour. Voilà pourquoi il est important et il est vraiment vital pour chacun d'entre nous de plonger nos regards dans cette précieuse parole. Apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. On est tous appelés à son service, tous. On est tous appelés à son œuvre. Il n'y a personne qui est appelé à rester sur le côté pour regarder les autres travailler à l'œuvre de Dieu. Mais son œuvre, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre sainte. C'est une œuvre qui est spirituelle. Et notre caractère doit être donc transformé pour pouvoir travailler dans cette œuvre. On ne peut pas venir avec nos armes, on ne peut pas venir avec notre capacité humaine, on ne peut pas venir avec notre conception des choses, même si c'est une conception qu'on a de la Bible, mais si c'est la nôtre, ça ne marchera pas. Il nous faut être transformés radicalement à l'image de Christ. On a chanté « Quand je contemple ta royauté, quand je suis transformé alors à ton image, oui, en contemplant Jésus, eh bien, il nous transforme. » Et on va regarder justement un des caractères ici, c'est la douceur et l'humilité de Christ. Matthieu 21, puisqu'on est dans l'évangile de Matthieu, on tourne quelques pages et on va au chapitre 21, on va lire plusieurs versets ce soir. Matthieu 21, verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un roi débonnaire, un roi plein de douceur. Matthieu 12, et au verset 18, nous trouvons aussi ce trait de caractère de Jésus. Voici mon serviteur, donc Matthieu 12, 18, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, pardon, et les nations espéreront en son nom. Il ne contestera point, il ne criera point. Voilà comment Jésus est venu sur terre. Voilà comment Jésus est venu amener la grâce, le roi débonnaire par excellence, la douceur incarnée. Jésus-Christ. Donc on va voir ce que c'est un peu la douceur. La douceur, c'est tout l'opposé de ce qui est rude, de ce qui est amer, de ce qui est tranchant. C'est un des fruits de l'esprit. On le retrouve dans Galates 5, 22. Et Tite nous dit dans son épître que elle doit être connue de tous. Notre douceur doit être connue de tous les hommes. Et elle doit se manifester aussi dans nos rapports mutuels, à nous qui sommes chrétiens, à nous qui sommes spirituels. Ça, on le trouve dans Galates. J'aimerais qu'on le lise ensemble parce que c'est important. Galates, au chapitre 6 et au verset 1er, on lira les 5 premiers versets. Galates 6, verset 1er. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Vous qui êtes spirituels, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes spirituels. Et nous qui sommes spirituels, dans un esprit de douceur. S'il y a des choses à dire, il faut les dire, mais dans un esprit de douceur. Comme Jésus a parlé, on le verra tout à l'heure, on va étudier plus en profondeur la manière que Jésus a exprimé sa douceur, mais Dieu nous appelle à ces choses. Et la douceur, elle est quasiment toujours mentionnée en rapport avec l'humilité. Quand on voit, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est avec douceur et humilité, conserver l'unité dans le lien de la paix, avec douceur et humilité. Là, je suis un roi, je suis doux et humble de cœur. L'humilité, elle est très souvent associée à la douceur et inversement. Car en vérité, c'est de l'humilité que va naître la douceur. Le rapport doux avec nos frères et avec nos sœurs. C'est d'un cœur humble, d'un cœur soumis, qui finalement se reconnaît pécheur et se reconnaît mais comme étant bénéficiaire, simplement bénéficiaire de la grande grâce de Dieu. On a été rachetés, tous lavés, purifiés pour nos péchés. On est tous des pécheurs. Sauvé par sa grâce. Quand on reconnaît ça, notre cœur, eh ben, il ne peut être que humilié devant sa grandeur. On n'est rien, on n'est rien. Et de cette humilité, ben, va naître, oui, un regard doux envers mon frère, envers ma sœur, qui peut-être traverse un moment difficile, mais ben, je vais l'accompagner avec douceur, parce que je vais peut-être l'aider à supporter quelque chose, si le Seigneur me le demande, mais je vais le faire avec douceur, parce que eh ben, je suis comme lui, un pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. On peut avoir beaucoup d'amour pour les âmes, on peut avoir un zèle ardent pour l'œuvre et la volonté de Dieu, pour sa parole, pour apporter le témoignage autour de nous, sur notre lieu de travail. On peut avoir beaucoup de zèle pour ces choses. Et pourtant, on peut manquer de douceur. Même s'il y a beaucoup d'amour dans notre cœur, qu'on en déborde, qu'on aime parler du Seigneur, on peut manquer de douceur. Parce que quand va survenir quelque chose, un pic, une offense qui va nous être faite, eh bien, on peut s'emporter, on peut s'irriter, on peut perdre notre paix et finalement faire perdre aussi de la valeur au message que nous transmettons. Quand on en est assez énervé ou on prend, et c'est des réactions des fois qui sont humaines, épidermiques, on ne peut pas contrôler ces choses, mais c'est tellement dur. Parfois quand, alors je vais parler de mon témoignage un peu personnel, mais quand on arrive à se dire que, en fait, la douceur, c'est quelque chose d'inné. Soit on l'a, soit on l'a pas. Mais donc, du coup, comme je l'ai pas, c'est pas mon caractère. Donc, ben, je vais devoir faire des efforts, ça va me coûter. Et puis après, c'est dur. Donc, du coup, ben, je me dis, bon, ben, c'est pas grave. Quand même, j'ai des bonnes intentions. J'ai de l'amour. J'ai beaucoup d'amour pour les autres. Je fais l'œuvre de Dieu avec amour, avec persévérance. Et mes intentions, elles sont pas mauvaises. Je manque pas d'amour. Et puis, de toute façon, être doux, quelque part, est-ce que ce n'est pas être un peu faible? C'est laisser passer peut-être des choses, c'est être laxiste. Je risquerais peut-être d'encourager le mal si je suis trop doux. Ça, c'est ce que je me suis dit, moi, personnellement, dans ma vie. Et c'est pour ça que j'en étais arrivé à un point où eh ben, j'étais devenu dur. Parce que, en fait, avec cette façon de penser-là, on élude notre devoir de nous conformer à l'agneau de Dieu. Et on empêche et on renvoie même un message négatif autour de nous. Parce que on va parler de Jésus, on va parler d'un Dieu qui transforme une vie, on va parler d'un Dieu qui sauve, qui délivre, qui peut changer le caractère. Et à côté de ça, on va manquer de douceur. Mais finalement, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible quand on fait comme ça. Mais ça a été, pour moi, en fait, pendant ce confinement, je vous partage quelques mots comme ça de ce que Dieu a fait aussi, mais ça a été une révélation. Dieu a mis le doigt sur quelque chose de très précis, et mon cœur, il était vraiment dur, mais dur. C'est-à-dire que, voilà, il y avait la Bible, et moi, je voulais regarder ce qu'il y avait dans la Bible, et puis si ça sortait, hop, d'un iota, ou comme moi, ma conception, plutôt pas la parole, ma conception de la parole. Si ça s'éloignait de ce que moi je pensais, que ce que le texte voulait dire, eh bien, c'était pas bon. Donc du coup, ça allait pas, ça va pas. Donc, non, ça va pas ce que tu fais, ça va pas ce que tu dis, non mais c'est n'importe quoi. Et ça, c'est dur en fait, c'est dur. Et c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Et ça, on va le voir Après, en contemplant l'exemple de Jésus, parce que Jésus nous montre le chemin à suivre. La rédemption, elle m'appelle à être semblable à l'image de Christ, mais elle me donne aussi les moyens d'être semblable à l'image de Christ. Voilà ce que c'est la rédemption. Christ m'a sauvé, m'a délivré de mon péché, m'en a lavé, il a oublié, il m'a pardonné, il m'a racheté, je suis son enfant, et il veut me donner par son esprit le pouvoir de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle il m'appelle. Voilà ce que veut le Seigneur. La douceur, c'est d'un très grand prix aux yeux de Dieu, un très grand prix. Un esprit doux, ça a une très grande valeur aux yeux du Seigneur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est l'esprit de son Fils bien-aimé. Et le Père et le Fils sont un. Le Père aime le Fils d'un amour immense. Le Fils aime le Père de la même manière. Ils sont unis à la perfection. Et Jésus prie pour nous. Jésus prie pour nous. On le trouve dans Jean 17 et au verset 20. Jésus prie pour nous afin qu'on soit tous un, comme lui est un avec son Père. Je ne sais pas si on peut imaginer la grandeur et la profondeur de cette prière. Voilà l'intercession de Jésus devant Dieu pour chacun d'entre nous. Que tous soient un comme toi et moi, on est un, afin que le monde voit, afin que le monde croit que tu m'as envoyé, qu'il croit en moi, qu'il croit en ce salut, qu'il croit en l'œuvre que je peux faire dans un cœur. Voilà ce que demande Jésus, ni plus ni moins, qu'on soit tous unis les uns aux autres, dans cet esprit-là. Seigneur, enseigne-moi comment je peux acquérir cette douceur. Et la réponse du Seigneur, elle est là. Apprends de moi, viens à mon école, apprends de moi, parce que moi je suis doux et humble de cœur. Et l'âme qui veut apprendre la douceur, elle doit apprendre de Christ, justement cette humilité et cette douceur. Il nous faut connaître. On a lu dans le verset 25 à 27, connaître. Le Fils seul connaît le Père. Le Père seul connaît le Fils et le Fils le fait connaître à celui à qui veut le révéler. Mais le Père seul connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Connaître. Ce verbe-là, ce n'est pas seulement connaître une connaissance superficielle, une connaissance « je te connais parce qu'on s'est rencontrés, on a discuté ensemble ». On se connaît. On connaît nos points communs, nos différences, on se connaît. Mais là, c'est connaître vraiment, en profondeur, connaître sincèrement et réellement une intimité parfaite, une unité indissociable entre le Père et le Fils. Seul le Fils connaît parfaitement le Père et il veut le révéler à notre cœur. Il veut nous montrer qui est Dieu. Et par le Saint-Esprit, il veut déposer ces choses dans notre cœur. Mais ça va se faire uniquement dans une dépendance complète, dans une intimité qui est profonde, qui est parfaite. Dépendre complètement de Jésus-Christ, venir à ses pieds pour apprendre de lui chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. J'ai pu voir, moi, pendant le confinement, des enfants, ils étaient arrivés à un certain stade d'apprentissage, et je m'étais dit, mais c'est super, ils sont partis de pas grand-chose, ils sont arrivés là, je me suis dit, oh, ils vont bien finir l'année. Et de les perdre de vue, de les avoir quelquefois au téléphone, de manière sporadique, de plus être avec eux sans arrêt pour les aider, pour les pousser, pour les soutenir. Mais j'en ai vu revenir avec un niveau complètement, alors pas anéanti parce qu'il restait certaines choses, mais qui avait complètement dégringolé. Mais pourquoi ? Parce que peut-être qu'il n'y a plus cette stimulation, peut-être qu'à la maison ce n'était pas comme à l'école, il n'y avait pas quelqu'un pour aider, pour pousser, pour encourager, pour soutenir. Ben, avec le Seigneur c'est pareil. Quand on coupe cette communion, quand on coupe le fil, un jour, demain, bon, on verra un peu, bon, ça va cette fois, cette semaine ça a été pas mal, la semaine prochaine. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que sinon on perd ça, on perd cette communion, on perd cette intimité, et cette connaissance elle va s'étioler, on va oublier des choses, on va remplir d'autres choses en fait notre cœur, et ça va vraiment être un mal pour chacune de nos âmes. Celui qui est doux et humble de cœur, c'est Jésus. C'est mon sauveur, celui qui m'a racheté. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est pour nous, c'est pour moi, parce qu'il est mon Père. Et tout ce qu'il a, en sa possession, il veut me le donner. Cette douceur, il veut me la communiquer. Cette humilité, il veut que ça soit mon partage. Et on va regarder un peu Jésus. Jésus plein de douceur. Jésus, c'est une douceur qui sait se taire. Dans Ésaïe 53 et au verset 7, il est dit... On va regarder, on va tourner les pages, on va prendre le temps de le faire, c'est important de lire. Ésaïe 53 et au verset 7, on connaît ce passage par cœur. En tout cas, on le connaît bien. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Dans Matthieu 27, il y a l'accomplissement de ce qu'on vient de lire, Matthieu 27, au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit : « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Une douceur qui sait se taire quand il faut se taire. Il aurait pu dire, mais vous faites quoi là? Vous ne savez pas qui je suis? Moi, je suis Jésus, le Fils de Dieu. Et il aurait pu, comme il l'a dit sur la croix, envoyer des légions d'anges pour venir à son secours, mais non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il aurait pu répondre aux accusations par des paroles véhémentes, mais non, il n'a rien dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le gouverneur, il a été stupéfait par la majesté du silence de Dieu, du silence de Jésus devant les accusations. Comment quelqu'un, parce qu'il était convaincu de son innocence, comment quelqu'un qui est innocent, il peut se taire comme ça alors qu'on l'accuse injustement? Mais ce n'est pas simplement on m'accuse injustement comme on pourrait le faire à toi, à vous et à moi, de dire il a fait ci, il a fait ça, mais à la limite, bon, on va prendre sur nous, on ne va rien dire. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la vie et de la mort. Dire que ces accusations, elles ont conduit Jésus à la croix. Mais Jésus n'a rien dit. Parce qu'il était venu pour ça. Et à ce moment-là, ce n'était pas le moment de lever le poing, de lever la voix. C'était le moment de se taire. Avec beaucoup de douceur. Mais le cœur de cet homme, il a été quand même frappé. Il a été touché. C'est une douceur qui sait se taire, mais c'est une douceur qui sait parler aussi. Proverbe, chapitre 15 et au verset 1er, je vais vous le lire. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce verset, il parle de lui-même. Matthieu 26, et au verset 50. Donc c'est quand Judas arrive avec toute l'escorte qui vient arrêter Jésus, et qu'il fait un baiser à Jésus. Jésus lui dit, mon ami, il lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et il tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et dans les autres évangiles, il est dit aussi que Jésus a mis sa main pour remettre et guérir ce serviteur. Quelle douceur! Il dit des choses, mais il dit des choses avec douceur. Il reprend même Pierre qui va essayer de le défendre avec violence parce qu'il aime son maître, tout simplement. C'est une réaction d'amour qu'il a pour Jésus de vouloir le défendre comme cela. Mais Jésus le reprend avec douceur, Pierre. Et il dit à Judas qui est venu le trahir, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Mais fais-le vite. Mais il le dit avec, je crois, de la douceur, mais aussi une profonde tristesse. Mais il ne va pas s'énerver contre lui. Il n'y a pas de violence dans ses propos. Et le cœur de Judas a été troublé. Jean 18. Au verset 23, mais je pense, voilà, on va lire à partir du verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds, souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Que dire devant cette attitude? C'est glorieux. C'est glorieux. Jésus, on lui met un soufflet, on l'accuse, on le presse de répondre, on le presse de sortir de ses gonds, mais Jésus, il est venu accomplir la volonté de Dieu. Il est doux, il est humble de cœur, il est venu pour une chose, c'est aller à la croix. Et il va accomplir cela sans jamais pécher, sans jamais avoir un accès de colère, un accès de rage contre ses accusateurs. Et c'est une douceur qui s'est parlée, et même quand on trouve dans Matthieu 23 cette expression qui revient sept fois, malheur à vous. J'ai récemment appris, et en fait en lisant d'un regard neuf, ce malheur à vous, c'est pas un malheur à vous tranchant. C'est pas un malheur à vous de malédiction. C'est un malheur à vous de malheureux que vous êtes. Pauvre, pauvre de vous. Mais en fait, vous ne voyez pas que vous êtes des hypocrites. Ce que vous proclamez, la loi que vous voulez que tout le monde suive, les choses que vous voulez imposer aux gens, mais vous ne les vivez même pas vous-même. Mais vous êtes malheureux, en fait. Vous êtes malheureux. Et après, juste après, il pleurera sur Jérusalem. Et il lui dira, mais tant de fois j'ai voulu que vous, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais quelle tristesse dans le cœur de Dieu. Et certainement, il a dit peut-être avec un ton ferme, mais c'était empreint de cette tristesse et de cette douceur d'esprit, de le dire dans l'espoir de gagner leurs âmes, de peut-être provoquer une réaction chez eux, qui sait qu'ils reviennent à eux, qu'ils comprennent que, mais oui, on est malheureux de vivre comme ça, on est malheureux de finalement de dire des choses qu'on ne vit même pas et d'imposer des choses aux gens alors qu'on n'est même pas capable de... Oui, on est malheureux. Jésus, c'est certainement ce qu'il a essayé de provoquer dans le cœur de ces gens-là. Et dans Matthieu 11, juste le passage avant, quand il dit « Malheur à toi, Chorazim, Bethsaïda », quand il prononce ces choses sur ces villes, mais c'est la même chose. Il y a beaucoup de tristesse dans son cœur, parce que s'il s'était repenti, mais la gloire de Dieu, elle aurait été... Ça aurait été tellement beau, mais il le dit avec beaucoup de tristesse. C'est vraiment jamais pour un définitivement maudire les gens, assassiner les gens, trancher les gens, couper, faire du mal, blesser, et que ça soit terminé définitivement. Et donc une douceur qui sait se taire, une douceur qui sait parler, c'est aussi une douceur qui sait redresser. Et ça, on le voit dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 9, et au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Il les a redressés avec beaucoup d'amour, parce que certainement, ils étaient emplis de ces sentiments. En plus, c'était des Samaritains, ils ne voulaient pas accepter Jésus. Allez hop, on fait descendre le feu du ciel, on les consume, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Non, Jésus n'est pas venu pour ça non plus. Et il les a gentiment réprimandés, en leur disant avec beaucoup d'amour, mais là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous dites des choses, ça ne va pas. Donc, moi, je ne suis pas venu pour ça, et je suis venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver, et ils ont continué ensemble leur chemin. Et je pense que les disciples ont compris la leçon. Dans Luc 7, alors que Jésus est dans la maison de Simon le pharisien, il y a cette pécheresse qui se trouve dans la ville, qui vient verser le vase d'albâtre sur les pieds de Jésus. Et Simon, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, au verset 39, Luc 7, 39, Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et là, il va lui parler avec une parabole. Il aurait pu lui dire, « Mais Simon, pour qui tu te prends ?»« Mais pour qui tu te prends ?» Mais non, il ne lui a pas dit ça comme ça. Il l'a pris et il lui a dit, « Mais j'ai quelque chose à te dire, viens. » Et il lui a expliqué, au travers d'une parabole, ce que cette femme avait fait et la valeur de ce qu'elle venait de faire, le sacrifice qui allait suivre. Et il lui a expliqué la croix, le pardon des péchés, l'amour de Dieu, avec beaucoup d'amour. Alors que s'il avait levé la voix et levé le ton pour lui parler avec dureté, certainement que le cœur de Simon, il était chez lui. Et comment ? Jésus me parle comme ça, il est invité chez moi, il me parle comme ça devant tout le monde. Alors le cœur se ferme. Et Jésus, non, il a fait preuve de douceur, il a fait preuve de tact, il a fait preuve d'amour, il a fait preuve d'esprit, c'est le Fils de Dieu, un esprit d'amour et d'humilité. La douceur de Christ, c'est pas de la mollesse non plus. Jésus, il a su se taire, il a su parler quand il fallait parler, il a su redresser avec beaucoup d'amour, mais quand il a fallu répondre, avec fermeté, il l'a fait. Quand il a fallu chasser les vendeurs du temple, avec fermeté aussi, il l'a fait. Il n'a accepté aucun compromis. Jamais cette douceur, cette humilité, cet esprit-là ne l'a conduit à faire du compromis avec le péché. Jamais, jamais. Et qu'il n'en soit jamais ainsi dans notre vie. Le Seigneur nous demande d'être doux et humble de cœur. Mais également de ne pas faire de compromis. La douceur, ce n'est pas prétexte, par amour avec tout le monde, par douceur, par esprit de « alors on accepte tout et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil ». Non, non. Mais le Seigneur veut nous montrer aussi comment on s'exprime, comment on parle, comment on agit dans telle ou telle situation. Est-ce que là il faut être vraiment ferme ? Est-ce que là il faut être ferme mais d'une autre manière, Jésus va nous montrer ces choses-là. Quand on se tient près de lui, quand on est à l'école du maître par excellence, du maître parfait, il nous montre comment agir, comment réagir. Le Saint-Esprit en nous vient faire cette œuvre. Jésus en nous vient faire cette œuvre. Contemplons toujours, toujours, et jusqu'à ce que notre cœur en reçoive les reflets, l'amour de Dieu, la douceur, l'humilité. Il faut que ça pénètre dans nos cœurs. Il faut qu'on le contemple jour et nuit. Quand nous contemplons ta royauté, on a chanté. Le roi des bonheurs, quand on le contemple, que ces choses, elles pénètrent nos cœurs, qu'elles nous transforment à son image, de gloire en gloire, de progrès en progrès, pour que toujours nous puissions marcher à sa suite d'une manière digne, c'est ce qu'il nous a appelé à faire. Une manière digne de la vocation céleste, c'est ce que ça veut dire. Dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice, dans l'amour. Mais ça, c'est lui qui le fait. Lui, il est doux, il est humble de cœur. Mais il ne va pas nous donner cette douceur comme quelque chose qu'il prend et qu'il nous donne. Non. En fait, la douceur de Christ, l'humilité de Christ, elle va venir dans nos cœurs parce que Christ va venir dans nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose qui est, hop, tiens, je te donne ça, tu veux quelque chose, hop, je te donne ça, tu as besoin de ça, hop, je te donne ça. Non. Je prends, j'ai Jésus dans ma vie. J'ai Jésus qui vit en moi. J'ai Christ qui vit en moi. S'il s'attache, si nous nous attachons à lui, si nous demeurons en lui, alors il demeurera en nous. Et alors ces choses, elles vont devenir, petit à petit, chaque jour davantage, de plus en plus naturelles dans notre cœur. Ça va devenir notre nature, elle va se transformer, petit à petit, de progrès en progrès, jour après jour. Dieu, il veut faire cette œuvre. C'est ça qu'il nous dit, prenez mon joug, le joug, marchez à mes côtés. Pas un joug qui est lourd, pas un joug qui accable, pas un joug qui casse la nuque, pas un joug qui fait du mal, mais un joug qui est doux, un joug qui est léger, un joug où celui qui marche à côté de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va conduire la charrue. Et lui, nous, on aura simplement à suivre le mouvement de Christ, dans la douceur, dans l'humilité, dans la compassion, dans la fermeté quand il le faudra, dans toutes ces choses. C'est Jésus, le roi des bonheurs, doux et humble, qui vient vivre dans nos cœurs. C'est ce qu'il veut. Qu'on puisse lui ouvrir notre cœur, que nos cœurs soient sensibles à ces choses, que nos cœurs soient enseignables, que nos cœurs soient éducables dans cet apprentissage à l'école de Dieu. Si nous le désirons, chacun pour notre part, l'Église, tous, alors nous serons tous unis dans un même esprit.
et nous conserverons par le lien de la paix cette unité de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut que tous on soit unis, qu'on conserve ces choses. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 2. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. On retrouve l'humilité et la douceur. Avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Jésus ne nous demande pas d'avoir notre vision d'un trait de caractère. J'ai ma vision de la douceur, je suis doux comme ça. J'ai ma vision de l'amour, j'aime les gens, mais à ma manière. J'ai ma vision des choses. Non, pas avec Jésus. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui nous communique une seule image, celle de Christ. Et à notre tour, nous communiquons aux autres une seule image, une seule et unique image, unie autour de la personne de Jésus, c'est l'image de Christ. Voilà ce que nous sommes appelés à faire et à vivre. Sur terre, Jésus, il a, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, peiné à rendre ses disciples doux et humbles de cœur. Malgré tout ce qu'il a pu dire et faire, il y avait quand même ses réactions. On l'a lu dans l'évangile de Luc. On va faire descendre le feu du ciel. J'ai coupé une oreille et je réagis de telle ou telle manière. Mais après sa mort et après sa résurrection, les choses, elles ont été complètement différentes. Il leur a donné le Saint-Esprit. Il les a rendus capables en habitant dans leur cœur, par l'Esprit de Dieu. Oui, il peut régner dans nos cœurs si nous nous laissons faire, si nous nous laissons éduquer, si nous nous laissons conduire, si nous nous laissons transformer. Sur la terre, Jésus a été notre modèle parfait afin de nous faire voir ce qu'il en était, d'une vie cachée, d'une vie intime avec Dieu. Parce que sur terre, Jésus, il avait cette intimité avec son Père. Et tout ce qu'il a vécu, finalement, c'est comme un modèle. Et maintenant, il nous communique ces choses par le Saint-Esprit et nous dit maintenant, marchez comme j'ai marché sur la terre. Vous en êtes incapable, c'est normal, je vous ai donné mon Saint-Esprit. Recevez-le et vous verrez que vous pourrez, par ma puissance, par ma force, par mon esprit, marcher comme j'ai marché. Croyons que Jésus accomplira en nous, lui-même et par son esprit, ce que nous, en vain, on a tenté d'accomplir. On tente peut-être d'accomplir. Son esprit, il veut nous unir en ces choses, comme on l'a dit. Apprenons de lui, allons à son école chaque jour, acceptons de nous faire reprendre par la parole de Dieu, acceptons de peut-être nous faire reprendre par un frère, par une sœur, dans l'amour, et apprenons de lui. Apprenez de moi, apprenons de lui, de ce qui vient de sa parole, de son Saint-Esprit. N'apprenons pas de nous, n'apprenons pas de notre expérience personnelle, de notre vie passée, n'apprenons pas de notre filtre et de notre conception des Écritures. Faisons fi de ces choses. Notre conception, elle est franchement limitée de cette parole qui est vraiment grande, souveraine. C'est quand même la parole de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu qui a créé le monde, qui nous a créé nous. Quand on regarde notre corps, simplement notre corps, notre cœur, comment il fonctionne, comment notre cerveau, c'est juste pas possible de comprendre tous les rouages de... Mais imaginez cette parole-là. On peut pas saisir toute la portée de ces choses avec notre conception. Alors, laissons notre conception de côté, laissons-nous renouveler dans l'intelligence et apprenons de lui. Et nous trouverons le repos. Et on aura le repos de notre cœur. Nous-mêmes, chacun pour notre part. Mais si on le fait tous, c'est l'Église qui trouvera du repos. C'est l'Église qui sera finalement glorieuse, qui sera unie, un moyen de bénédiction pour cette ville, un moyen de bénédiction pour notre pays. C'est l'Église qui sera belle et qui sera parée pour le retour de son Sauveur. Et si ensemble on se laisse façonner par l'Esprit de Christ, contemplant tellement Christ, qu'on sera tous unis de cette unité de l'Esprit. On sera tous capables de se pardonner comme Christ nous a pardonné. On sera tous capables de s'aimer comme Christ nous a aimés. On sera tous capables de se supporter, de se porter les uns les autres, les fardeaux. Car Dieu le fait chaque jour avec nous. On sera tous capables d'œuvrer, chacun selon ce que Dieu nous appelle à faire, pour l'édification du corps de Christ, pour mon frère, pour ma sœur. Je serai capable de recevoir le don que Dieu a pour moi et de le manifester, de le mettre en pratique, de le faire partager à l'Église pour que je sois cet instrument de paix, cet instrument d'unité, cet instrument qui fait que l'Église elle s'édifie, cette pierre vivante qui fait qu'avec mon frère, avec ma sœur, unis dans ce même esprit, dans cette même unité, dans cette gloire que Jésus veut pour chacun d'entre nous, on pourra, ça sera beau, tout simplement ça sera beau, ça sera le ciel sur la terre, le ciel dans l'Église, et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et j'aimerais terminer juste par quelques versets de l'Écriture, et je vais lire dans la transcription de Paroles Vivantes, c'est dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 12. Je trouve ça tellement beau et tellement parlant, c'est la parole de Dieu. Alors quoi de mieux que de terminer par des versets de l'Écriture. Ainsi donc, au verset 12, « Puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez bon caractère, faites preuve de patience. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts ainsi généreusement que le Seigneur Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire la vraie sagesse et vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres. De tout votre cœur, chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Faites tout ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire, dans la dépendance du Seigneur Jésus. Adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père, que son nom soit béni. Apprenons de lui la douceur, l'humilité, l'amour. Apprenons simplement de Christ à marcher comme il a marché. Soyons comme Christ, mes frères et sœurs, pour l'Église, pour ce monde qui nous entoure. Il a besoin de ça. Il a besoin de voir Christ en nous. Quel caractère on veut laisser? Quelle empreinte on veut laisser ici? On veut laisser l'empreinte de Christ. Marcher dans ses pas afin que notre empreinte soit celle de Christ. Amen. Notre Dieu et notre Père, notre bon Père céleste, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu nous as donné toutes les armes et tu nous as donné aussi un exemple et un modèle parfait. C'est toi, Seigneur Jésus. Tu es le chef de cette armée. Et si nous apprenons à combattre comme tu as combattu, à parler comme tu as parlé, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'humilité, à reprendre quand il le fallait, avec un coup de fermeté aussi, mais beaucoup d'amour, Seigneur, si nous marchons tous à ta suite, mais nous allons tous être unis, qu'est-ce que ce sera beau, Seigneur, de marcher les uns et les autres unis autour de ta personne. C'est ce que nous désirons. Oui, Seigneur, quand nous contemplons ton grand exemple, Jésus notre roi, on aspire à t'imiter, on aspire à te suivre, on aspire à marcher comme tu as marché, à vivre ce que tu as vécu. Mais Seigneur, c'est pas inatteignable. Oui, avec nos propres forces, c'est infaisable, c'est impossible. Seigneur, mais on en appelle encore à ta grâce et à ton secours parce que on est des pécheurs, mais on est sauvés par ta grâce. Tu es notre Père, notre Sauveur et tu veux encore nous communiquer ces choses ce soir. Seigneur, puisses-tu faire descendre cette parole dans nos cœurs. Qu'elle s'enracine, que ce soit une réalité, que on puisse voir du fruit, que mon frère, ma sœur puisse voir ces choses en moi, que le monde, Seigneur, mes collègues de travail, ma famille puissent voir ces choses en moi, cet esprit transformé, ce caractère transformé à l'image du Sauveur, à l'image de Christ. Oui, Seigneur, le monde en a besoin, nos contemporains en ont besoin, ils ont besoin de voir Christ en nous. Seigneur, nous te prions afin que ton Église, eh bien, elle avance dans ce sens, dans tes traces, dans ton empreinte. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur. Oui, je veux voir la gloire de Dieu dans le cœur de mon frère. Je veux voir la gloire de Dieu dans le cœur de ma sœur. Je veux voir une œuvre qui est grande, qui est non pas celle d'un homme, mais l'œuvre de Dieu. Ah Seigneur, oui, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie pour l'Église dans notre pays. Ah Seigneur, ramène à toi tous ceux qui peut-être se sont éloignés. Donne-nous, Seigneur, ce caractère doux et humble pour reprendre avec beaucoup d'amour. Ah Seigneur, s'il te plaît, qu'on s'attache à ta parole, qu'on s'attache à ton esprit. Et Seigneur, que nous puissions marcher unis autour de ta personne, que ton grand nom en soit glorifié. Amen.